Sur AFM, le journal. Samuel Bogoto.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal, les titres. Laurent Gounbaba, député de Baboua, c'est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il succède à Abdoukari Mekassoua, destitué vendredi dernier par ses collègues. Réforme du secteur de sécurité, 40 policiers et gendarmes démarrent une formation sur les premiers intervenants sur la scène de crime. Et en sport football, poursuite à Priya des éliminatoires de la Coupe de la Paix. Merci de votre fidélité à Dira FM.
Dira FM.
À la une de ce journal, l'Assemblée nationale a un nouveau président, Laurent Gounbaba, député de Baboua. Il est élu ce matin par 112 voix sur 116 votants. Son challenger, Timon Léon Baïkoua, député de Paoua, a retiré sa candidature. Fridolin Wambombo, vous étiez à l'Assemblée nationale pour le compte de Guira FM.
Le candidat Gounbaba Laurent a recueilli 112 voix sur 112 suffrages valablement exprimés et déclaré élu président de l'Assemblée nationale pour le reste de la législature.
Le vote a été marqué par un incident. Le fait marquant est le moment où le député de Mbakikad Alfredier Katom alias Rombo a sorti un pistolet et a menacé de boycotter le vote. Très vite, il a été maîtrisé par les éléments de la sécurité et les travaux ont repris une heure après. Ils étaient 116 à voter sur 140 députés. Laurent Gounbaba a obtenu 112 voix et 4 bulletins blancs. Quelles sont ses premières priorités en tant que nouveau président? Laurent Gounbaba répond.
En tant que président de la commission de loi, j'ai été aussi acteur. Nous avons vécu. J'ai noté comment fonctionne l'Assemblée nationale de la République centrafricaine et nous avons principalement noté la question de la gouvernance financière, la gouvernance des ressources humaines, la gouvernance des biens immobiliers. Nous avons immédiatement pris des mesures, la gestion des ressources financières. Il a manqué l'orthodoxie financière à l'Assemblée nationale à tel point que la procédure des dépenses n'était pas respectée et c'est ce qui a engendré tout le mécontentement.
C'était le vendredi 26 octobre que l'ancien président Abdoukarim Mekassoua a été destitué par ses pairs suite à une motion de défiance. Laurent Gounbaba a un peu plus de 2 ans devant lui pour finir cette 6e législature.
Merci Fridolin. Actualité encore à Bangui. Réforme du secteur de sécurité. 40 policiers et gendarmes ont démarré ce matin à Bangui une formation sur les premiers intervenants sur la scène des crimes. Il s'agit d'une session de 2 jours. Appuyé par l'Union européenne, le PNUD et la MINUSCA dans le cadre du projet d'appui contre les violations des droits de l'homme et de la relance de la justice en Centrafrique. Notons que cette formation est animée par des experts de police de la MINUSCA. Agir vite pour le cerveau, c'est autour de ce thème que le monde célèbre ce 29 octobre la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Cette journée vise essentiellement à sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique en les incitant à se rendre le plus tôt que possible à l'hôpital dès l'apparition des premiers symptômes. La paralysie ou l'engourdissement brutaux d'un côté du corps, les difficultés soudaines à s'exprimer, la perte de l'attention, la diminution très brutale de la vision d'un œil, la céphalée brutale inhabituelle et les nausées, vomissements sont les principaux signes des accidents vasculaires cérébraux.
Dira FM.
Plus de 200 enseignants du fondamental 1 sont en formation depuis ce matin à l'hôtel Azimut. C'est un atelier de 3 jours organisé par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNICEF. À analyser les risques de protection auxquels les enfants sont exposés en milieu scolaire et d'élaborer un plan de réponse pour réduire les risques ou les incidents de protection en toutes circonstances. Francesca Bonomo, spécialiste d'éducation à l'UNICEF, donne des précisions sur cette formation au micro de Ptora Elodie Bambou.
La formation, en fait, vient pour satisfaire une requête du ministère de l'Éducation pour rendre l'éducation en Centrafrique résiliente. Pourquoi on fait ça? Parce que les écoles en Centrafrique se retrouvent à opérer parfois dans des zones d'insécurité, même de haute insécurité. Et donc, il faut équiper les enseignantes avec les capacités de faire face à un accident qui peut arriver ou à l'école ou au milieu scolaire, même autour de l'école. Par exemple, il y a des risques auxquels les enfants sont exposés quand ils sont en marche vers l'école. Donc, les enseignants aujourd'hui et pendant la semaine vont apprendre comment il faut faire un plan de préparation et de réponse aux dangers qui peuvent arriver dans leur école.
Page nécrologique dans ce journal, hommage ce 29 octobre à Bernard Ndonazi, très réputé dans la pharmacopée centrafricaine. Il était décédé le 23 octobre à Bangui. Ses obsèques se sont déroulées ce matin à son domicile à Boyarab dans le 4e arrondissement. Fred Rouner, Yapende Nabana était présent.
C'est toute une bibliothèque qui brûle avec la disparition de ce phytoaromathérapeute. Bernard Ndonazi, né le 20 août 1954 à Bozoum, ses résultats scientifiques ont été publiés dans The Time Magazine, volume 138, numéro 12 du 23 septembre 1991 pour avoir guéri une énorme plaie thoracique chez un adulte de 55 ans en 28 jours par l'application de la pâte de termite, les kamikazes. Son objectif était d'intégrer une somme de connaissances et de savoir-faire en médecine traditionnelle dans la médecine moderne. Mais celui qui est le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a rendu hommage ce matin, s'en est allé sans avertir ses nombreux patients qu'il a guéris par ses potions magiques et d'autres qui attendaient de l'être. Témoignage.
Je me suis plusieurs fois soigné avec ce produit. D'abord la toux, la grippe avec ce produit et aussi les brûlures de la peau. Le traitement était efficace. J'étais stupéfait des résultats. Aujourd'hui, avec des larmes aux yeux, je ne sais plus si je pourrais dans l'avenir me procurer de ce produit. Est-ce qu'il y a encore du stock? Est-ce que quelqu'un a pris le relais pour la continuité? Je ne sais pas, mais sinon, les produits étaient très très efficaces.
Le baobab de la pharmacopée centrafricaine pour ses patients, Bernard Ndonazi, directeur de l'Institut de Naval, entendait donc à valoriser, laisse derrière lui 7 enfants, 5 garçons et 2 filles.
Guira FM, dossier sport.
En sport, poursuite à Bria des éliminatoires de la Coupe de la Paix mise en jeu par les Russes. 9 équipes disputent cette compétition à l'issue de la 2e journée. L'Expérience a battu l'AS Tempête Mokaf 2 buts à 0. Diamant Vert et les Anges de Barangbaké ont fait match nul 0 buts partout. Match nul également entre Olympique Real de Bria et le club CDO, les collecteurs de diamants et or. 1 but partout. Du côté de la sous-ligue du site de PK3, la première journée en match retour a donné les résultats suivants. L'équipe nationale centrafricaine a battu Espoir 1 but à 0. Black Star et les Fauves du PK3 se sont séparés sur un score de parité 0 but partout. Cependant, la rencontre entre Espoir et FC Planche a été réjouie.
L'invité de la rédaction.
L'invité de la rédaction est le docteur Loms Lumbelelo, chef de bureau de l'OMS Kakabandoro. Au micro de Marie-Chantal Lumba, il parle de la flambée des cas de paludisme qu'a connu ces derniers mois la ville de Kakabandoro et du plan de réponse en exécution par le district sanitaire, l'OMS et les autres partenaires de santé pour en faire face. Suivez.
Docteur Lomps, vous êtes le représentant du bureau de l'OMS ici à Kakabandoro. Qu'avez-vous constaté concernant les cas de paludisme?
Merci pour la question. Nous avons un système d'alerte précoce. Donc c'est un système qui nous permet de faire le suivi de certaines maladies, surtout les maladies à potentiel épidémique. Ce qui avait retenu notre attention, c'est qu'on avait constaté que le nombre de cas de paludisme augmentait de manière exponentielle. Ce qui a retenu notre attention, on a constaté que de loin on dépassait le seuil épidémique attendu, c'est qu'il y avait une flambée des cas de paludisme à Bandoro. Et c'est ce qui a motivé plusieurs actions qui ont été prises.
Quelles sont les actions que vous avez menées?
On a d'abord renforcé la coordination, donc la mise en place d'un comité restreint, un petit comité de coordination, le ministère de la Santé, l'OMS et certains partenaires, pour qu'on puisse monitorer la situation de plus près. Et c'est comme ça qu'on a vraiment décelé que le nombre de cas était très très élevé de paludisme qu'on a pu recenser dans les formations sanitaires et qui dépassait de loin le seuil des cas de paludisme attendu. Et surtout que c'était des cas de paludisme confirmés. Et après, on a développé un plan de réponse qu'on a pu suivre. Dans ce plan de réponse, il y a d'abord la coordination qui a été renforcée. Et en dehors de la coordination, il y avait la surveillance. Donc à travers la surveillance, on a dispatché au niveau de l'équipe cadre du ministère de la Santé, aussi dans les formations sanitaires, c'est certaines fiches de collecte des données qui étaient renvoyées sur une base hebdomadaire au niveau du district sanitaire pour compilation et puis analyse. Et en dehors de ça, on a renforcé les aspects de la prise en charge, donc parce qu'on avait aussi constaté qu'une molécule dont le Coartem, qui est la molécule de première ligne utilisée, il y avait des ruptures, donc nous avons renforcé les stocks. pas seulement au niveau du district sanitaire, mais aussi au niveau de l'hôpital et des formations sanitaires pour faciliter la prise en charge. Donc les kits anti-malaria sont arrivés et aussi les tests de diagnostic rapide. Et en plus de cela, on a formé, dans un premier temps, on a formé 35 prestataires de soins dans les différentes formations sanitaires sur la prise en charge adéquate du paludisme simple et sévère. Il y avait aussi les aspects prévention. Dans les aspects prévention, on a d'abord tenu des réunions avec les chefs de quartier pour leur parler de la problématique du paludisme en ce moment. Comme vous le savez, c'était pendant la saison de pluie et du fait qu'il y avait des gîtes larvaires un peu partout, ce qui a expliqué en partie l'éclosion de nombres très élevés de cas de paludisme confirmés. Donc on leur a parlé de cette problématique, mais aussi ils ont sensibilisé les populations sur l'utilisation des moustiquaires et du fait que nous avions un stock limité de moustiquaires, donc on a d'abord privilégié les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et donc au niveau des formations sanitaires, nous avons monté sur chaque lit d'hospitalisation une moustiquaire et on a distribué à toutes les femmes enceintes d'abord dans les sites de déplacés. Et là, nous sommes en train d'envisager dans les jours qui viennent une distribution de moustiquaires sur toute l'étendue de la Nana Grébizi.
Quels sont les premiers symptômes lorsqu'on a le paludisme et quelle attitude prendre?
Disons que de manière très simple, le paludisme se manifeste par vous avez la fièvre. En dehors de la fièvre, vous avez des courbatures. La personne va vous dire qu'il a mal au niveau des articulations. On a aussi les maux de tête. Et puis pour certaines personnes, vous pouvez avoir, surtout pour les enfants, à la suite de cette fièvre, ils peuvent convulser. Et puis vous avez des nausées, vomissements. Et pour certaines situations, on a même des cas de diarrhée. Ça, c'est par rapport à la forme simple. Et pour la forme compliquée, d'emblée, vous avez des convulsions. Et puis, ou peut-être des cas de déshydratation. Et chez les enfants, on peut même avoir une gastro-entérite. Et dans d'autres formes, souvent, c'est l'anémie.
Quelle est l'attitude qu'on doit avoir dès qu'on a ces premiers symptômes?
Je pense que le message à passer à la communauté, à la population, c'est que dès qu'on a ces malaises, c'est mieux d'aller se faire consulter, surtout que dans notre contexte ici, la prise en charge, disons les consultations ainsi que la prise en charge sont gratuites. Je pense qu'il est mieux d'aller le plus tôt possible à la formation sanitaire la plus proche afin qu'on puisse faire les tests diagnostiques rapides. C'est un test qui vous prend 10 à 15 minutes. Ça permet de savoir que la personne a le paludisme ou non. Et après, le traitement va suivre. Mais aussi, il y a les moyens de prévention. Dormir sous une moustiquaire imprégnée, parce que c'est vraiment un problème ici. Bon, l'utilisation des moustiquaires pose encore des soucis. Tantôt c'est utilisé pour la pêche, tantôt c'est utilisé pour sur les jardins, pour protéger contre les poules, les coqs. Et donc il y a cette prévention aussi. Nous avons parlé de dormir sous la moustiquaire imprégnée, mais aussi il y a l'hygiène corporelle, mais aussi l'hygiène environnementale. Parce que vous savez que lorsque nous avons dans notre parcelle qui n'est pas propre et qu'il y a de l'eau stagnante, ça favorise le développement des gîtes larvaires et puis on a des anopheles qui après vont piquer la population et les gens vont faire le paludisme. Donc la combinaison de la prévention et puis la prise en charge, parce que vous savez, dès que la prise en charge se fait plus précocement, et moins on a les chances d'arriver aux complications qui sont très difficiles à gérer.
Parce que le paludisme tue vraiment, c'est le premier facteur.
Effectivement, ça c'est un point que j'avais peut-être oublié. Dans notre milieu ici, le paludisme est la première cause de consultation, mais aussi la première cause de mortalité. Par exemple, d'après notre système d'alerte précoce, nous a permis de déceler un total de 16 411 cas de paludisme confirmé depuis le début de l'année jusqu'à la semaine épidémiologique numéro 41. Et déjà à la semaine 34, on a constaté que le nombre de cas de paludisme attendu était multiplié par 5. Parce qu'on avait une moyenne de 300 cas par semaine, mais après on était arrivé à 1300 Et c'est là que, à partir de ce moment qu'on a eu la puce à l'oreille pour mettre en place tout ce dont j'ai parlé bien avant. Et aussi, bon, il faut dire que les efforts ont quand même porté de bons fruits parce que sur les 16 411 cas confirmés, nous avons enregistré 50 décès. Donc le taux de létalité est à 0,3%, ce qui est un peu encourageant. Autre chose qu'on a pu remarquer, c'est que c'est beaucoup plus les enfants qui sont plus touchés, les enfants de moins de 5 ans, qui représentent 60% des cas, et les adultes, disons les personnes de plus de 5 ans, 40%. Mais aussi, on a remarqué que le sexe féminin semble plus touché. On a un total de 5, il représente 55% du total. Et aussi, le paludisme, de manière générale, il représente environ 40 à 45% des consultations, mais actuellement, le paludisme à lui seul représente 92% des consultations, donc ce qui est vraiment énorme.
Donc vous appelez les populations à aller se faire soigner.
Oui, effectivement, c'est vraiment la première cause de mortalité. Il ne faut vraiment pas hésiter quand on connaît la difficulté que nous avons à gérer les complications, surtout quand je vois les anémies. La plupart des décès qui ont été enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans, c'était lié à l'anémie avec un recours très tardif. Donc à l'hôpital, on a essayé, mais ça n'a pas marché.
Je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Et voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Laurent Gonbaba, député de Babwa, c'est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Abdoukarim Mikassoua, destitué vendredi dernier par ses collègues. Réforme du secteur de sécurité, 40 policiers et gendarmes ont démarré ce lundi une formation sur les premiers intervenants sur scène de crime. Et en sport, les éliminatoires de la Coupe de la Paix se poursuivent à Bria.
Dira FM.
Merci d'avoir écouté ce journal de la rédaction de Guira FM sur les manettes. Il s'appelle Jean-René Issena. À la prochaine sur Guira FM, les ondes de la paix.